Mais je ne vais pas lire jusqu'à la fin du Nouveau Testament, hein. Je vais lire seulement le début du chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a eu des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent, « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens ? Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ?» Nous venons du pays des Parthes, des Médies, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquent des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Alors Pierre, debout, avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9h du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ce jour-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. » Voilà, je vais m'arrêter là. Magnifique, ça fait envie. Jésus a préparé une équipe de disciples pour poursuivre son ministère sur la terre. Et quand il est mort, je ne sais pas s'il avait vraiment réussi. Pourtant, ça a fonctionné puisqu'on est là. Mais ça a fonctionné parce que justement, il y a eu Pentecôte. Et quand on voit la différence des disciples avant ou après Pentecôte, on comprend qu'on ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Il leur manquait quelque chose. Et c'est pour cela que la fête de Pentecôte est tellement importante. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est largement distribué à tous. Et c'est vraiment un privilège par rapport aux disciples avant la Pentecôte. Alors, on n'a pas eu besoin d'attendre aujourd'hui, le 28 mai 2023, pour recevoir le Saint-Esprit. Hein, il est là, mais je pense que c'est bon de s'arrêter encore et de réfléchir qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Dans le chapitre d'avant, verset 8, il est dit, c'est Jésus, donc juste avant l'ascension, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de faire connaître le salut en Jésus jusqu'au bout du monde, à toutes les nations, sans barrière, ni de nationalité, ni de langue. Et c'est bon de se souvenir. c'est vraiment nous équiper l'Église pour être témoin et pour parler au monde. Annoncer la bonne nouvelle, continuer le travail de Jésus en l'imitant et en décuplant les forces, puisque Jésus, tant qu'il était sur la terre, ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Et pour cela, il nous a donné ce dont nous avons besoin. Il nous a équipés. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas un petit plus, mais c'est indispensable pour être ses témoins. Par son esprit, c'est la présence de Jésus en nous et il nous envoie. Jésus a dit dans Jean 14, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Encore plus grande. Elle est même que lui. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est un verset que nous connaissons, je pense, pour la plupart, et qui nous questionne. Nos prières, nous prions, et pourtant elles ne sont pas toujours exaucées. Mais continuons, il a promis. Il a promis que le Saint-Esprit en nous était cette force et sa puissance, la même que Jésus avait. Comment Jésus a-t-il exercé son ministère sur la terre? En naissant à Noël, il s'est fait homme. Il a renoncé à sa condition divine. Lui, pourtant le Fils de Dieu. Et on a l'impression que sa force et son pouvoir venaient de ce qu'il était Dieu. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai imaginé, ce que je m'imaginais. Mais Jésus était simplement rempli du Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit, le même que nous pouvons avoir. Il était en communion avec son Père, obéissant à son Père. Mais comme nous, Jésus était pleinement homme pendant ce temps qu'il a passé sur la terre. C'est un mystère qui nous dépasse. Et pourtant, il doit nous encourager. Jésus comme nous. Et d'ailleurs, il avait besoin de passer du temps dans la prière. Il avait besoin du Saint-Esprit, comme nous. Et il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Nous aussi, nous avons besoin de ce Saint-Esprit, besoin de cette communion avec Dieu pour faire les œuvres de Jésus, pour être les témoins, pour être des chrétiens dans ce monde. Et j'aime cette phrase de Francis Chan, je ne sais pas si vous connaissez, « Je ne veux pas que ma vie puisse s'expliquer sans le Saint-Esprit. » Comme l'Église. Est-ce que nous voulons que l'Église, elle puisse exister comme ça? Elle fonctionne. On sait faire, on est bien organisé. William Booth disait, le plus grand danger du XXe siècle, c'est une religion sans Saint-Esprit. C'est des églises sans Saint-Esprit. Il a continué, il a dit, des chrétiens sans Christ, un pardon sans repentance, le salut sans la nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter. Une religion sans Saint-Esprit. Une église qui fonctionne sans le Saint-Esprit. Et je crois que c'est possible. Je crois aussi qu'il y a des chrétiens qui peuvent continuer d'être pas si mal que ça sans le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons? Être des gens bien, avec des idées claires, une morale importante. Une façon de vivre juste. Et je pense qu'on peut y arriver un bon petit bout sans le Saint-Esprit. Mais nous voulons plus. On l'a chanté ce matin. On veut que nos cœurs soient fertilisés. On veut que le Saint-Esprit nous inonde. Et parfois, je réalise pour ma propre vie, j'aimerais cette puissance du Saint-Esprit. Parce que j'aimerais voir des miracles, j'aimerais que quand je prie pour les malades, il y ait des guérisons. J'aimerais voir plus de choses dans mon ministère et j'aimerais cette force Saint-Esprit qui fait des choses merveilleuses. Mais ça commence à ce qu'il vienne dans ma vie, à ce qu'il continue de me transformer. Ce n'est pas fini. Et c'est ça le premier travail du Saint-Esprit. C'est que nos vies soient de plus en plus comme Jésus. Nos vies questionnent les gens autour de nous. Pas juste des gens bien. Mais que nos vies ne puissent pas s'expliquer sans l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. On a tendance à penser que le surnaturel, c'est des miracles. Mais le surnaturel, c'est de pouvoir vivre dans ce monde en ressemblant à Jésus, en étant ses témoins, en aimant ceux qui ne sont pas aimables, en renonçant à certaines choses dans nos vies, en mettant notre vie de plus en plus en ordre avec Dieu. C'est un chantier. Et j'ai été touchée dernièrement aussi en lisant un livre qui disait, mais souvent, ça parlait surtout des serviteurs de Dieu, donc ça ne vous concerne pas tous, les pasteurs, mais le risque, c'était qu'ils ne se laissent plus toucher, transformer dans leur caractère, dans leur vie. Et je crois que c'est aussi vrai pour tout le monde, pour tous les chrétiens, à quelque niveau que nous soyons. Peut-être plus nous avons de responsabilités, plus nous avons le risque de croire qu'on a tout, qu'on a fait. Enfin, on sait bien qu'il y a encore des petites choses qui ne vont pas dans nos vies. Mais plus que ça, est-ce qu'on a envie que nos vies continuent d'être touchées, d'être remises en question? Est-ce qu'on donne l'autorité au Saint-Esprit de parler dans nos vies? Ou bien seulement de parler dans celles des autres? Et en m'utilisant plus parfois. Est-ce que je laisse Dieu parler dans ma vie? Pas autant que je le souhaite. Ça prend du temps. C'est un désir vrai. Et c'est vrai qu'on a chanté des beaux chants ce matin, on a envie que le Saint-Esprit vienne, on a aussi parlé du feu. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Prendre des risques aussi en demandant ça. Est-ce qu'on veut que le feu brûle dans nos vies un certain nombre de choses? Alors moi, j'ai envie de le chanter. Au fond de moi, je le veux. Mais il y a encore des résistances dans ma vie. Alors, ce Saint-Esprit pour aujourd'hui, pour cette Pentecôte 2023, j'ai envie qu'il nous laisse, que je puisse lui donner une occasion nouvelle d'agir en moi, de me transformer, d'aller profond en moi, d'irriguer et de faire des changements. Ce n'est pas seulement quelque chose de doux qui nous fait aimer Dieu et qui nous rend les choses confortables. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui dérange. Mais pour la bonne cause, par amour. Même si c'est difficile, même si nos vies doivent être bousculées, qu'il y a des choses qui doivent encore changer, des mauvaises habitudes, est-ce que Jésus a vraiment la priorité dans notre vie? Qu'est-ce qui, dans ma vie, prend une place qui devrait être donnée à Dieu? Dans mes loisirs, dans mon temps libre, dans ma vie, où c'est que le Saint-Esprit aimerait mettre le doigt? Je crois qu'il y a dans chacune de nos vies quelque chose. Peut-être des plus petites, peut-être des plus grandes. Un pas après l'autre. Il y en a aussi qui ont peur du Saint-Esprit. Ils ont peur que ça chamboule tout. Mais il est rempli d'amour. Et il ira à votre rythme, à notre rythme. Alors il y en a quelques-uns que le Saint-Esprit a bousculé, hein, comme Paul. Puis des fois on aimerait bien que certaines personnes autour de nous soient touchées comme Paul. Mais le plus souvent, ça se passe d'une autre manière. Ça se passe progressivement, peut-être plus délicatement. Est-ce que vous donnez l'autorisation au Saint-Esprit de continuer de bousculer vos vies? Et c'est vrai que quand on pense au Saint-Esprit comme à la Pentecôte, on dit ça faisait envie, on aimerait qu'il nous tombe dessus. Hein, on aimerait voir ces flammes qui tombent. Alors peut-être que vous avez un moment dans votre vie, une expérience particulière avec le Saint-Esprit. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que vous avez pris conscience et que c'est un moment fort que vous n'oubliez jamais. Et moi j'ai eu ce moment, je m'en souviens, et c'est comme une pierre blanche qui m'encourage. J'étais toute jeune, j'avais 12 ans. Il y a d'autres moments encore où j'ai eu l'impression que le Saint-Esprit me transformait. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tous les jours qu'on est visité comme ça. Il y a le quotidien, il y a la monotonie de la vie. Comment est-ce qu'on rencontre le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on prend le temps de face à face avec lui? Et même sans être peut-être visité, sans être avec plein d'émotions, avec tout ce qui peut aller autour, mais laisser le Saint-Esprit agir, nous parler, l'écouter. Et c'est vrai qu'on aimerait que le Saint-Esprit nous tombe dessus, mais on doit s'exercer à l'écouter. Et c'est pour ça que j'aime parler de collaboration avec le Saint-Esprit. Comme Jésus qui collaborait, qui avait le Saint-Esprit, il ne faisait pas tout seul, et nous non plus. Nous devons nous attendre au Saint-Esprit, demander de l'avoir. Il est parlé de ce don des langues, de la prophétie, beaucoup. Alors on se dit, c'est réservé à quelques-uns, et c'est quand le don de prophétie tombe tout d'un coup du ciel sur quelqu'un. « Seigneur, si tu veux me le donner, donne-le-moi, on verra bien, hein. Mais je l'attends toujours. » Ou bien alors, « Seigneur, tu as promis de nous parler, de nous donner des paroles. » Et peut-être je peux m'exercer. Ça paraît bizarre. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'avais l'impression que les paroles du Seigneur, eh ben voilà, on les avait ou on ne les avait pas. Et il y a des gens qui sont super, parce que je connais un pasteur, chaque fois que je le rencontre, il a une parole de Dieu pour moi. Une parole d'encouragement, un verset biblique. Et ça me fait tellement du bien. Et j'aimerais être comme lui. Et puis, pour ceux qui connaissent Vivre Libéré, on était la semaine passée, le week-end de l'Ascension, avec il y a le cours Écouter la voix de Dieu, apprendre à écouter la voix de Dieu. Et là, j'ai réalisé que ça s'apprend. Un métier, on ne s'imagine pas que d'un jour à l'autre, on va savoir, « Seigneur, dis-moi si je dois être menuisier, et demain, je saurai tout faire. » Ah ben non, ça ne se passe pas comme ça. Mais on aimerait que ça se passe comme ça avec le Saint-Esprit. Et nous pouvons écouter la voix de Dieu, nous pouvons demander à Dieu de nous parler pour les autres. Au début, on ne sait pas trop si ça vient de nous, si ça vient de Dieu. Hein? Mais s'entraîner. Et tant que c'est des paroles bienveillantes, pleines d'amour, même si elles ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas très grave. Hein? Donc voilà, c'est comme un entraînement d'apprendre, de dire « Seigneur, donne-moi, je vais rencontrer cette personne aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?» Ou bien « Comment tu la vois ?» Et c'est un entraînement. Je crois aussi que la prière pour les malades, on aimerait aussi avoir quelques-uns qui ont le don de guérison, et c'est vrai, il y a des gens qui ont un don très particulier, mais nous pouvons tous prier pour les malades. Tous. Et peut-être que si nous commençons à prier, eh bien nous verrons plus de guérison. Et prier dans le nom de Jésus. Paul nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs, celui de la prophétie. Et j'aime aussi, c'est extraordinaire ce qui s'est passé à Pentecôte, où tout le monde entendait parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Alors, on peut parler du don des langues, celui qui permet aussi d'être fortifié soi-même dans notre culte personnel ou avec d'autres, de prier en langue. Et j'aimerais dire que même ça, à un moment donné, il faut ouvrir la bouche. Hein. Ça ne nous tombe pas dessus et puis dire, voilà, je peux... C'est ça qu'on a des fois peur, parce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit, c'est lui qui décide et puis qu'on n'est plus maître. Alors oui, le but, c'est qu'on soit plus maître, mais par notre propre volonté, pas parce qu'il prend le dessus. C'est quand nous lui laissons être maître. Mais à un moment donné, il faut ouvrir la bouche. Et là, ces langues, C'est effectivement des langues humaines, un miracle extraordinaire. Et je ne veux pas dire que c'est autre chose que des miracles et des gens qui étaient capables de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'apprendre de nouvelles langues. Alors, il y a les langues humaines, mais il y a aussi les langues de l'amour, les langues de comment rencontrer les gens autour de nous. C'est parfois difficile de trouver les bons mots. On connaît bien la théorie, on connaît bien la Bible, mais comment transmettre? Comment avoir un langage qui permet aux gens de rencontrer Jésus? Et je crois que nous avons aussi vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous aider à rencontrer, à rejoindre toutes ces personnes qui ne parlent pas la même langue que nous. Et je ne parle pas des Ukrainiens qui parlent leur langue, je parle de toutes ces personnes qui ont une autre culture, qui ne connaissent pas Jésus. Comment trouver ce langage-là? Et je crois que le Saint-Esprit veut aussi. Et ça peut être par des actes, ça peut être des choses simples, mais c'est aussi une question de vouloir, de collaborer, de demander au Saint-Esprit, « Seigneur, aide-moi à parler le langage de cette personne. » Peut-être même dans les couples, on pourrait faire cette prière-là. « Seigneur, aide-moi à parler le langage de l'autre. » Et essayons. Sur ce chemin, nous avons tellement besoin du Saint-Esprit, je l'ai dit, sur le chemin de la sanctification. Et le Saint-Esprit ne veut pas juste nous donner un petit coup de main, juste un petit peu nous aider, mais il désire nous transformer complètement, encore et encore, je l'ai déjà dit. Il veut rendre nos cœurs timides. Il veut prendre nos cœurs timides et l'enflammer de force et de courage, à tel point que les gens puissent voir que quelque chose de surnaturel s'est passé en nous. Est-ce que les gens doivent voir des choses surnaturelles qui se sont passées en nous, comme à la Pentecôte? Alors j'aimerais nous inviter ce matin. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Comment tu veux que je collabore avec toi? Comment est-ce que je peux apprendre à collaborer avec toi? Apprendre à recevoir des choses surnaturelles ou des choses naturelles, mais qui deviennent surnaturelles. Comment recevoir ce que j'ai parfois l'impression que c'est seulement les autres qui ont et pas moi? Où c'est que tu veux m'emmener plus loin sur ce chemin? C'est vrai que Dieu donne librement. Nous ne pouvons rien exiger de lui. Mais il nous a dit d'aspirer, de chercher, d'ouvrir nos cœurs. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez envie de plus de Jésus dans votre vie? Même si ça dérange, même si ça dérange les gens autour de vous. Est-ce que vous êtes encore en train d'apprendre? Est-ce que nous sommes encore en train d'apprendre? Alors, un apprentissage, ça dure 3-4 ans, puis après c'est bon. Mais je crois qu'ils ont toujours besoin de se mettre de plus en plus maintenant, d'apprendre les nouvelles techniques, de progresser. Dans notre vie spirituelle, on n'a pas juste 3-4 ans pour apprendre, c'est toute la vie. Et puis le diplôme, on l'aura plus tard. Mais on a déjà le sceau du Saint-Esprit qui nous assure du salut. On a déjà tout. Et peut-être c'est comme un métier, à un moment donné, il faut de la théorie. C'est peut-être un peu ça ce matin, ou c'est ça le dimanche matin, ou à d'autres moments. Mais il faut passer à la pratique. Il faut se lancer, il faut oser. Un apprenti va aussi faire des erreurs, il va aussi se tromper. Mais quand c'est dans l'église, quand c'est le spirituel, on a l'impression que là, il n'y a pas le droit. On a le droit partout de se tromper, sauf à l'Église, sauf pour les choses spirituelles. Est-ce que c'est juste? Je ne crois pas. Ça nous paralyse, ça nous empêche d'oser, d'essayer, de grandir ensemble, de se rencontrer les uns les autres. Si je ne fais rien et que je ne me trompe jamais, les autres vont penser que c'est tout facile pour moi. Peut-être les plus jeunes, ils vont croire, mais waouh. Quand je vois quelqu'un qui se trompe, ça m'encourage. Pas que je suis « yes, il s'est trompé ». Non, mais voilà, on va ensemble. Moi aussi, je peux me tromper. On se trompe ensemble, on s'encourage, on se donne la main. Et c'est ensemble aussi qu'on a ce Saint-Esprit, soumis les uns aux autres. C'est là aussi, quand dit « parler », chercher la prophétie, je vous disais, oser se tromper, oser donner des paroles, même si elles viennent plus de moi que du Seigneur. Déjà, si je connais un petit peu ma Bible, ça va être en général inspiré de la Bible. Et puis, c'est aussi dit d'être soumis les uns aux autres. Et puis, il y a peut-être la manière de le dire. Si je dis « Dieu m'a dit », ça c'est très compliqué à recevoir, parce que plus le choix. Et dire « Voilà ce que je sens sur mon cœur pour toi. J'ai prié pour toi et j'ai reçu ce message ou cette pensée. » Peut-être même oser dire « Je ne sais pas si elle vient de moi ou de Dieu, mais ce n'est pas notre problème. C'est la personne. Est-ce qu'elle va la prendre ou pas la prendre ? C'est sa responsabilité. » Je reste une femme humaine avec mes limites. Mais le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires, peut faire des choses et veut faire des choses bien plus grandes. Je me rends compte qu'il y a tellement plus de place que je dois lui donner dans ma vie, tellement plus. Et nous sommes en route. Alors, chers amis, ça c'est la chose la plus merveilleuse, c'est que où que nous soyons dans notre chemin de foi, que nous soyons tout au début ou bien depuis des années et des années et des dizaines d'années de foi, nous sommes encore en chemin. Et nous nous encourageons les uns les autres dans l'humilité, la soumission à Dieu et la soumission les uns aux autres. Et le mensonge que l'ennemi essaye de nous donner pour justement pas que nous entrions là, c'est de dire qu'on doit tout réussir, qu'on doit être parfait. Parce que si ça vient de Dieu, ça doit être tout de suite parfait. Mais nous sommes humains et nous collaborons avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alors faisons attention de ne pas faire tout par nous-mêmes, sans le Saint-Esprit, de fonctionner dans nos vies sans lui, ou alors de ne rien faire en attendant que le Saint-Esprit nous tombe dessus et nous amène à tout d'un coup, pour aller évangéliser, j'ai besoin d'un don particulier, hein. J'ai besoin que le Saint-Esprit tombe sur moi pour pouvoir être un témoin. Mais non, on est tous appelés à être des témoins. C'est oui avec le Saint-Esprit, oui pas tout seul, mais le Saint-Esprit pas tout seul non plus. Nous collaborons avec lui et nous nous sentons limités. Heureusement, le jour où on se sent capable de faire les choses, il faut qu'on l'arrête. Le jour où on n'a plus besoin du Saint-Esprit, il faut qu'on arrête. Le jour où je peux prêcher sans avoir mal au ventre, j'arrêterai de prêcher. Chaque fois, j'ai mal au ventre. Parce que je ne me sens pas à la hauteur. Et j'ai envie de dire, peut-être c'est pareil pour ceux qui font la louange ou d'autres choses. Entraînons-nous. Soyons conscients que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais que nous devons nous lever, ouvrir nos bouches. Et à un moment donné, tous ceux qui ont déjà prêché savent que, à un moment donné, il faut se lancer. Hein? Et on reste humain. Les prédications, tout ce que vous entendez, ça reste un mélange du Saint-Esprit et de Dieu et de l'humain. Donc il n'y a pas que du bon. Ce qu'on écoute sur Internet aussi, des choses extraordinaires. C'est une collaboration entre l'humain et Dieu. Et nous devons toujours être vigilants. Repérons les mensonges. Mais les mensonges qui nous arrêtent, la peur d'évangéliser, la peur de prier pour les malades, la peur de donner une parole de reconnaissance, la peur de parler en langue. C'est l'ennemi parce que ça nous paralyse. Que le Saint-Esprit nous visite, mais que nous soyons ouverts à cette visite. Je ne sais pas si vous avez souvent des visites chez vous. Alors moi, j'aime bien les visites à l'improviste aussi, mais pas que. Mais la plupart du temps, et de plus en plus dans notre culture, les visites sont invitées. Et on se prépare. C'est pour ça que j'aime bien des fois les visites improvisées, parce que j'ai moins besoin de préparer. Mais préparons-nous, invitons le Saint-Esprit. Et je crois que ça fait une différence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous visite, vous rencontre, vienne dans vos maisons, dans votre communauté, dans vos cœurs, pour des belles rencontres, pour une puissance renouvelée, et que nous soyons ensemble, l'Église, la présence de Jésus dans ce monde, dans cette région, partout, et pas seulement dans les régions, aussi dans notre travail, à l'école, partout, que nous soyons ensemble cette présence de Jésus-Christ, et que les gens puissent dire, comme à la Pentecôte, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas s'ils vont dire que vous êtes ivres, mais ils vont peut-être dire qu'ils sont un petit peu... Quand il y a la joie dans l'épreuve, quand il y a des choses qui, voilà, et ça questionne les gens, et ils viennent nous demander, et que le Seigneur nous donne le langage qu'ils peuvent entendre, un langage, pas juste qu'ils puissent comprendre, un langage qui comprenne que nous louons Dieu, que nous honorons Dieu, que le Seigneur nous bénisse ensemble sur ce chemin, qui est beau, qui est encore long, mais qui vaut la peine. Amen.